Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que la pensée computationnelle? Si ce terme ne t'est pas familier, tu sais pourtant peut-être déjà ce que c'est sans même t'en rendre compte. La pensée computationnelle est un processus qui implique des étapes qui s'enchaînent mais où certaines tâches peuvent aussi être effectuées en parallèle. Celui qui comprend alors la différence entre ces processus à la suite et ceux en parallèle peut développer des stratégies de résolution de problèmes. Il s'agit alors de la méthode de pensée computationnelle. Cette pensée permet de formuler des problèmes et leurs solutions de manière à ce qu'ils puissent être compris et exécutés à la fois par des humains et par des machines. Le problème est disséqué de sorte à identifier des modèles et formuler des règles qui vont conduire progressivement à la résolution du problème. Ainsi simplifié, le problème peut donc également être résolu par un ordinateur. Pour essayer de comprendre un peu mieux cette pensée computationnelle, sache qu'elle comporte quatre étapes. La première est la décomposition. Plus simplement, il s'agit d'un problème complexe qui est divisé en plusieurs problèmes partiels et compréhensibles. La deuxième est l'identification de modèles. On recherche ici des modèles reconnaissables au cœur des problèmes partiels. Pour cela, on va s'appuyer sur des valeurs qu'on connaît déjà. Souvent, les processus identifiés sont déjà connus en totalité ou en partie, dans le cadre d'autres procédés de résolution de problèmes. La troisième étape est l'abstraction. En fait, les aspects dits insignifiants du problème sont mis de côté. L'accent est mis sur les détails pertinents. On veille à fortement simplifier le problème initial. La quatrième étape comprend les algorithmes. Grâce aux étapes de réflexion qui viennent d'être citées, on sait désormais selon quel modèle opère la problématique rencontrée et comment nous pouvons les influencer. Il est maintenant possible de définir des règles menant à la résolution de problèmes. Par exemple, un utilisateur va procéder à une action et envoyer ce qu'on appelle un input à la machine via son clavier ou sa souris. Et la machine va lui répondre par une action dite d'output qui sera transmise par l'écran d'ordinateur, par exemple. Ces actions d'input et d'output sont également valables pour des actions de ton quotidien, lorsque tu utilises ton smartphone ou ta télévision lorsque tu changes de chaîne avec ta télécommande. Maintenant, nous allons regarder de plus près le dispositif que tu vas utiliser afin d'appliquer cette pensée computationnelle. Sache que ce dispositif comporte plusieurs éléments, comme des LED néopixels, des capteurs et détecteurs de température ou de niveau sonore, des boutons, ainsi qu'un accéléromètre ou encore un connecteur d'alimentation pour y brancher une batterie. Pour l'exercice que nous allons voir ensemble à présent, il va te falloir plusieurs éléments. Le CPX d'Adafruit, une batterie que tu vas connecter, ainsi qu'un câble USB que tu vas également connecter à ton ordinateur. Une fois que c'est fait, rends-toi sur le site suivant dans ton navigateur. Nous y voilà. Une fois arrivé sur le site, tu verras tout d'abord une zone de travail. C'est sur cette zone que tu vas venir déposer les fonctions que tu trouveras dans ce menu. Prenons par exemple l'input bouton A clic que tu vas placer sur la zone de travail. À cette fonction, tu vas pouvoir en ajouter d'autres. Prenons par exemple une fonction de lumière comme celle-ci que tu vas placer pour le moment en dessous. Cette fonction, tu vas pouvoir la placer dans ta précédente. À tout moment, tu peux aller observer le code JavaScript des fonctions que tu as placées sur ta zone de travail. Elles sont automatiquement retranscrites en langage informatique. À l'écran, tu verras également d'autres éléments. Sur la gauche, par exemple, tu trouveras une représentation de ton dispositif CPX d'Adafruit. Tu verras en direct les réactions aux fonctions que tu auras placées sur la zone de travail. Ici, par exemple, nous voyons que lorsque tu cliques sur le bouton A, les lumières s'allument. Effaçons la zone de travail et commençons une petite démonstration. Premièrement, tu vas aller chercher une fonction dans le menu. Tu iras chercher la fonction dans Input, OnShake, que tu vas venir placer sur ta zone de travail. Maintenant, tu vas aller chercher une autre fonction dans la catégorie Lumière, comme celle-ci. Tu vas venir la placer dans ta zone, puis directement dans ta fonction précédente. Concrètement, les actions que tu as placées sur ta zone sont les suivantes. Lorsque tu vas secouer le petit dispositif Adafruit, une animation lumineuse va se produire durant une demi-seconde. Maintenant, allons chercher une autre fonction dans la catégorie Musique, comme celle-ci, que tu vas venir placer à la suite des précédentes. À cela, tu vas ajouter une boucle de répétition, que tu vas également venir placer sur ta zone. Cette boucle, tu vas venir l'intégrer aux autres fonctions. Pour cela, tu vas la placer au-dessus des autres pour qu'elle englobe l'animation et le son. Concrètement, cela veut dire que lorsque tu vas secouer le dispositif, l'animation et la musique vont se répéter 4 fois. Afin de terminer cet exercice, tu vas aller chercher dans Lumière la fonction qui s'intitule Clear. Ainsi, en la plaçant dans ta zone de travail, tu vas dire au dispositif d'arrêter la boucle de répétition à un moment donné. Tu peux voir le résultat directement dans la simulation sur la gauche de l'écran. Lorsque tu secoues le dispositif, les lumières vont s'allumer et une musique va retentir. Voilà, nous avons à présent terminé l'exercice, ainsi que l'aperçu des fonctions principales possibles avec ce dispositif. Une fois que le fichier a été transféré au dispositif, voilà le résultat obtenu.
Tadam!
Merci d'avoir suivi cette vidéo et maintenant, à ton tour d'essayer.